Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie avec Mescar. Mescar, maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Éco, est présent à Toulouse.
Nouveau rendez-vous avec les entreprises en Occitanie pour lequel je vous propose de découvrir le cabinet Chasse de Tête fondé il y a 20 ans par Virginie Granier. Dans cette série d'émissions qui lui est consacrée, nous allons beaucoup parler de recrutement, de formation, mais pas seulement. Virginie Granier est l'invitée d'Éco aujourd'hui.
Éco, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, Éric Dupri.
Bienvenue Virginie Granier, ravi de vous accueillir à Radio Présence dans nos locaux que vous connaissez pour y être déjà venue. Je crois même que vous êtes une fidèle auditrice de notre antenne.
Bonjour Éric, merci beaucoup de m'accueillir, ravi d'être présente. Oui, Radio Présence, j'écoute très régulièrement effectivement.
Vous fêtez donc cette année le 20e anniversaire de Chasse de Tête, mais vous avez eu une première vie professionnelle avant de créer ce cabinet de recrutement. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé succinct de ce qu'ont été vos études et vos premiers métiers, vos premières fonctions ?
Oui, bien entendu. Effectivement, j'ai démarré donc après un bac économique. J'aimais la relation à l'autre et naturellement, je me suis orientée vers des études commerciales. J'avais envie, après le bac, peut-être d'aller plus vers une formation, j'allais dire, plus pragmatique. C'est pour ça que je me suis orientée vers un IUT commercial. À l'époque, c'était 2 ans. Aujourd'hui, maintenant, je crois que c'est 3. Et ensuite, étant donné que j'avais, à la sortie de l'IUT, 19 ans, je trouvais que j'étais encore pas forcément prête à attaquer le marché du travail. J'ai postulé dans des écoles et j'ai intégré Subdeco Poitiers. Donc voilà, j'ai terminé en 95, c'était hier, n'est-ce pas ?
Et,
presque. Et ensuite, je suis revenue travailler en région parisienne. J'ai démarré dans une société de travail temporaire, donc il y avait quand même déjà un lien avec le recrutement. Après, c'était une ambiance un peu spécifique où il n'y avait que des femmes et je pense que la complémentarité dans une entreprise est pas mal. Donc, je suis allée vers une entreprise à Levallois-Perret qui organisait des salons professionnels où j'ai travaillé en tant que commerciale sur notamment le salon Equibé Batimat. Hein, donc, c'était des expériences très riches. Et puis, j'ai décidé de suivre celui qui allait devenir mon mari à Marseille. Donc, j'ai atterri à Marseille, je crois que c'était en 99, où là, j'ai travaillé pour une école qui s'appelait IT2I, qui existe toujours, où l'idée, c'était, je travaillais pour des gens qui se formaient en formation continue. Donc, c'était l'idée de trouver les entreprises dans lesquelles ils pouvaient faire leur formation continue et également travailler pour essayer de recruter des personnes pour l'école. Donc ça, c'était jusqu'à 2003. Et 2003, nous sommes revenus sur la terre sud-ouest, puisque avec nos origines, avec mon mari aveyronnaise, l'idée d'aller à Toulouse s'est relativement imposée. Nous sommes arrivés en 2003. Je venais d'être maman de ma première fille Agathe qui a 22 ans. Et à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre des études. Passionnée par la psychologie, je me suis lancée donc dans des études de psychologie pour parfaire aussi, je dirais, le côté compréhension de l'être humain, passionnée partout par le comportement humain au sens large. Et donc, j'ai repris jusqu'à la licence. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, il ne faut pas rester des années en dehors du marché du travail. J'ai postulé dans des cabinets de ressources humaines toulousains. Et c'est là où l'idée germe, car je postule, je passe pas mal d'entretiens d'embauche, et puis on me dit, c'est intéressant, mais on ne peut pas vous embaucher aujourd'hui, etc. Mais il y a un cabinet qui me dit, si vous vous mettez à votre compte, on vous fera travailler en sous-traitance. Moi, je n'avais jamais pensé spécialement à me mettre à mon compte, mais je dirais l'opportunité possible est devenue une vraie passion, entre guillemets. Et du coup, je me suis lancée, je me suis installée aller à mon compte. J'ai oublié une expérience entre-temps. Je suis désolée, à Marseille où j'avais travaillé.
Allez, revenons en arrière.
À Marseille, après avoir travaillé, avant IT2I, j'avais travaillé dans un cabinet de ressources humaines où j'avais appris le métier de chasseur de tête aussi. Mais je ne l'ai pas spécifié. Et donc, j'ai repris contact avec mes anciennes collègues qui s'étaient certaines mises à leur compte et qui travaillaient en sous-traitance de cabinet. Et elles m'ont donné des billes, elles m'ont donné même des premiers clients. Et j'ai commencé comme ça, donc c'était en mai 2006, donc ça va faire 20 ans effectivement, où je me suis installée. Le démarrage, c'était la sous-traitance effectivement, et petit à petit, eh ben, j'ai développé mon cabinet, mes contacts directs.
De clients. Et...
Exactement.
Et voilà. Alors, chasse de tête, pourquoi vous avez retenu ce nom pour votre cabinet? Bon, ça dit tout, d'une certaine manière, c'est pour ça ou...
Au départ, je n'avais pas forcément de nom. Et puis finalement, rapidement, on s'est fédéré avec d'autres indépendants. Et le fruit de ce lien avec les indépendants, on s'est appelé chasse de tête. Et puis, au bout de quelques temps, on était quelques-unes à être assez actives. Et finalement, cette association n'a plus vraiment fonctionné. Et au moment où on allait, on va dire, se séparer, moi, j'ai trouvé que le terme chasse de tête était tellement évident, tellement clair. Et comme j'aime les choses qui sont assez claires, assez... Les choses sont dites, on va dire, même si parfois c'est sympa d'avoir un peu plus d'imagination. Mais là, les choses sont claires. Et du coup, j'ai demandé aux autres personnes si je pouvais reprendre ce nom. J'ai gardé chasse de tête. Il a même été déposé à l'INPI pour être protégé, etc. Et donc, je l'ai gardé. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, le mot chasse.
C'est mieux que prise de tête.
C'est mieux prise de tête. Il y a des enfants aussi. J'ai une consoeur dont les enfants lui disaient « Mais ma maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est coupeuse de tête. » Alors non, 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 on n'est pas dans la violence. Le fait que ça s'appelle chasse, c'est tout simplement parce qu'on va chercher, cibler, approcher des candidats. Mais on est, je vous rassure, et je suis absolument pas dans la violence, dans la manière d'aborder les choses.
On abordera les questions éthiques après dans votre métier, bien sûr. Quelles ont été les principales étapes du développement de votre cabinet? Il y en a forcément eu en 20 ans.
Bien sûr, il y en a eu plusieurs. Donc au départ, effectivement, ça a été la sous-traitance, mais très vite, ayant, comme vous pouvez peut-être le voir, un tempérament commercial, j'ai été chercher, prospecter. J'ai eu une personne qui m'a aussi fait confiance. Il ne faut jamais oublier ceux qui vous ont tendu la main sur la route. C'est le patron d'Accence, que je pense vous serez amené aussi à rencontrer, qui m'a en fait...
Je l'ai sollicité en effet.
Voilà. Donc c'est un cabinet effectivement de conseil toulousain. Lui-même avait créé sa boîte un an avant moi. Et quand je me suis mise à mon compte, il m'a dit c'est super, tu vas pouvoir recruter pour nous. J'aime bien tendre la main à ceux qui viennent de se créer. Et donc, ça a été mon premier client direct et petit à petit, en prospectant par le réseau, en allant faire tout un tas de démarches, j'ai développé et j'ai quasiment au bout de, je pense, 4 ans arrêté la sous-traitance pour passer directement à des clients directs.
Alors aujourd'hui, vous êtes toujours la seule salariée de chasse de tête, mais est-ce que vous avez songé à recruter vraiment et à prendre des gens avec vous pour travailler pour le cabinet? Non pas en sous-traitant, parce que je sais que vous sous-traitez
oui.
Vous-même.
Oui.
Mais vous n'avez pas songé à... Ou c'est compliqué pour vous?
C'est les cordonniers les plus mal chaussés quand on voit comme c'est compliqué de recruter. En fait, pour la petite histoire, c'est vrai que ce côté souplesse, agilité, d'être seul et de pouvoir... Mais seul, je vous rassure, je travaille beaucoup, beaucoup avec d'autres personnes parce que c'est vital, parce que c'est super intéressant. Et donc, je travaille effectivement sur la partie, notamment, on en parlera, mais sourcing, recherche de candidats... Avec plusieurs consoeurs, je salue au passage Nora qui fait partie de mes contacts, notamment qui travaille souvent avec moi. Je travaille aussi dans des réseaux où on partage des outils. Je ne suis pas seule dans mon coin, bien entendu, mais c'est vrai que c'est poser la question de recruter. Mais en fait, je crois que j'aime trop, encore une fois, ce modèle, cette agilité, cette possibilité
cette autonomie aussi.
Cette autonomie, exactement, et qui me convient très bien.
Oui. Qu'est-ce que vous sous-traitez comme type d'activité, de service? De quoi vous avez besoin que vous ne pouvez pas produire, entre guillemets?
En fait, je fais à peu près tout, mais notamment la partie que je sous-traite le plus, c'est vraiment sur la recherche de candidats, sur des missions, souvent on en parlera, mais qui sont pénuriques, compliquées, où il faut beaucoup de temps, il faut aller chercher et passer beaucoup de temps. Je le fais, mais il y a une partie aussi pour accélérer les choses où je me fais aider. Après, c'est sur la partie classique comptabilité aussi, où bien entendu, je suis ravie d'avoir une experte comptable de qualité et qui m'aide beaucoup dans ce travail. Ça peut être aussi faire appel à de la formation aussi pour progresser. Mais l'essentiel de la sous-traitance, c'est vraiment sur la partie recherche de candidats.
Et vous-même, est-ce que vous avez suivi des formations au cours de ces 20 ans pour acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances?
Tout le temps, sinon
on se fait décrocher.
Complètement. Donc ça peut être des formations par exemple à la non-discrimination, des formations qui sont nécessaires dans mon métier. Récemment, des formations à ChatGPT, tout ce qui est l'intelligence artificielle, bien entendu.
C'est indispensable qu'on veuille ou non.
Exactement. Des formations dans plein de domaines. Des formations justement pour mieux évaluer, des formations à la RGPD. Enfin, toutes les thématiques qui sont absolument fondamentales. Et puis parce qu'il faut sortir de sa pratique. Enfin, il faut aller se confronter à d'autres choses. Sinon, j'allais dire, on ne progresse pas. Formation aux réseaux sociaux aussi, parce que...
Aujourd'hui, c'est indispensable.
C'est indispensable. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur notamment le réseau social LinkedIn pour progresser dans ma façon de communiquer. Tous les ans, plusieurs fois par an, je suis des formations.
La communication, c'est aussi très important dans votre métier, dans votre activité.
Bien sûr que la communication est essentielle. Communiquer de ses clients, communiquer, avoir de la visibilité aussi. Parce qu'en tant qu'indépendant, je veux dire, forcément, les gens, au départ, ne vous connaissent pas, vous, en tant que tel. Donc, il faut vous donner une vitrine, quelque part, pour vous faire connaître. Et donc, la communication est essentielle, bien entendu.
Merci beaucoup, Virginie Granier. Nous allons maintenant nous retrouver la semaine prochaine. On a fait déjà un beau tour d'horizon de ce qu'est Chasse de Tête aujourd'hui. On parlera de vos clients et des services que vous leur proposez. À bientôt donc.
Merci.
C'était Echo, le rendez-vous des entreprises en Occitanie, en partenariat avec Mescar. Mescar, la maison d'investissement et de conseil, partenaire d'Echo, est présent à Toulouse.